9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Il sera beaucoup question de faux dans cette émission et d'abord des faux aliments que nous consommons sans le savoir. Ingrid Kragl publie « Manger du faux pour du vrai, les scandales de la fraude alimentaire ». Elle est ma première invitée ce matin. Puis on s'intéressera à la recrudescence des faux en art avec Frédéric Castin, le président de la Compagnie Nationale des Experts. Et enfin, à la télé-réalité, l'écrivain Aurélien Bélanger consacre son dernier roman à cette révolution télévisuelle dont les répercussions, nous dit-il, sont partout. Bonjour Ingrid Kragl, vous êtes directrice de l'information de l'ONG européenne Foodwatch et vous publiez « Manger du faux pour de vrai, les scandales de la fraude alimentaire » chez Robert Laffont. Quand vous dites « manger du faux », cela signifie « manger de faux aliments hein, ». C'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'un faux aliment ?
Bonjour. Alors effectivement, on peut se demander ce qu'est un faux aliment. Figurez-vous qu'il existe des faux aliments, comme il existe des fausses clopes, des fausses Rolex, voilà. Les faux aliments, c'est par exemple des aliments contrefaits, donc des imitations, des pâles imitations qui se font passer pour des produits de qualité. Ça peut être des faux aliments, ça peut être des aliments contaminés qui sont au vu et au su des opérateurs malgré tout commercialisés, qui entrent dans la chaîne alimentaire. Ça peut être des aliments adultérés, c'est les fameux miels qui n'en sont pas, qui n'ont jamais vu la moindre abeille et qui sont un mélange un peu louche de, par exemple, sirop de glucose et autres cochonneries chimiques. Des produits illégaux parce qu'ils ont clairement enfreint la réglementation. Ça peut être des faux pesticides. Il y a pas mal de faux pesticides en Europe qui sont utilisés pour produire nos fruits et légumes. Donc voilà, c'est tous des aliments ou même des boissons qui ne devraient jamais finir dans nos estomacs et qui parviennent pourtant.
Et vous dites que ça nous concerne tous, hein, riches ou pauvres, clients du bouillot ou de l'alimentation industrielle.
En fait, oui, quand ça fait des années que je travaille sur ce sujet de la fraude alimentaire, je me suis aperçue que non seulement le phénomène est en croissance exponentielle ces derniers temps, mais en plus que ça concerne absolument tous les rayons. Ça commence avec le sel, le poivre, qui sont a priori bon marché, et ça va jusqu'aux aliments chics et chers, comme le foie gras, le champagne, en passant par le poisson, la viande, l'huile d'olive, le miel,
et
les bio, malheureusement.
Et ça touche toutes les provenances, y compris le Made in France, y compris les origines géographiques protégées.
Ce qui est compliqué, effectivement, parce qu'une fois que j'ai fait ce constat, cette enquête, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Parce que même moi, qui suis très aguerrie à la lecture des étiquettes, je sais faire attention à ce que je consomme et à ce que je donne à mes enfants. Qu'est-ce que je fais une fois que je suis informée de l'ampleur de ces fraudes ? Parce qu'on parle quand même de volumes très importants, tant en France qu'en Europe. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me tourne, comme la plupart des gens un petit peu informés, vers du local, du Made in France, des labels en lesquels on a l'habitude d'avoir confiance, parce que c'est des indications géographiques protégées, des AOP et autres labels, est-ce que je ne mange plus que bio, etc. Et ben malheureusement, le constat est que ça ne suffira pas à être protégé des fraudes. Même ces aliments de qualité, en fait, il y a de la triche sur les étiquettes, sur l'origine, sur les détournements de qualité. Les IGP, par exemple, en Europe, il y a 9% d'IGP qui sont contrefaits. Donc, en fait, ça se fait passer pour des labels, des terroirs qui ont un cahier des charges plutôt costaud et qu'on se dit, là, on a affaire à de la qualité. Et les 9%, c'est une statistique européenne. Quand on sait qu'en France, on a plus d'AOP et d'IGP que nos pays voisins, parce qu'on a beaucoup de fromages, de vins, etc., qui sont protégés par ces labels, on se dit que peut-être il y en a même plus que 9% chez nous.
Alors, la Commission européenne estime à 30 milliards d'euros par an, environ, le montant de la fraude. Bon, ça fait 3%, hein, puisque l'industrie agroalimentaire, ça représente 1000 milliards d'euros par an en Union européenne. 3%, c'est déjà beaucoup. Hein.
Mais en fait, ce chiffre, il y a de fortes chances pour qu'il soit même sous-estimé, figurez-vous, parce que l'Italie, rien que l'Italie, qui fait partie de l'Europe, elle estime à 24,5 milliards, je crois, les pertes pour l'industrie agroalimentaire dans ce qu'elle inclut dans le terme d'agromafia, tout ce qui concerne les pratiques illégales liées à l'industrie agroalimentaire. Donc voilà, si l'Italie évalue ça déjà à 24 milliards, il y a de fortes chances pour que la Commission européenne, avec 30 milliards, soit assez loin du compte. Donc c'est vrai que c'est beaucoup, c'est impressionnant. Ce sont des pertes pour l'industrie. Donc finalement, le livre, il montre que nous, on est tous potentiellement concernés par la fraude, mais les industriels, certains secteurs, filières, sont aussi victimes de cette fraude.
Et les fabricants eux-mêmes. Hein.
Mais oui, bien sûr. Et donc voilà, c'est pour ça que j'espère cette enquête provoquera un électrochoc.
En même temps, c'est un tabou, Ingrid Kragl, parce que vous le dites, qu'on ignore quels sont les revendeurs, fournisseurs, quelles sont les marques et même quels sont les produits impliqués, ni en quelle quantité exactement. Donc pourquoi est-ce qu'on n'en sait pas plus ?
Les quantités, les types de produits, certaines denrées, je les évoque. Hein. Il y a quand même pas mal de chapitres sur différents types d'aliments dans le bouquin.
Les autorités enquêtent, mais elles ne veulent pas non plus faire trop de mauvaise publicité. C'est
exactement.
Ça, en fait.
Et le tabou, en fait, je l'ai expérimenté parce que ça fait des années qu'avec Foodwatch, nous, on interpelle les autorités dès qu'il y a un scandale sanitaire ou autre crise. On leur demande des comptes parce qu'il arrive fréquemment aussi qu'on ait affaire à des produits qui sont quand même dangereux pour la santé parce qu'ils sont contaminés. J'ai un paquet de preuves de ça. Et quand on les interpelle, en général, la réponse qu'on a, c'est une fin de non-recevoir. C'est « vous inquiétez pas, on a géré, circulé, il n'y a rien à voir ». À tel point que
eux-mêmes ont fait l'enquête, eux-mêmes ont arrêté les produits en question.
Mais le problème, c'est que tout ça, finalement, éveille le doute, puisque, évidemment, ils font le travail. Et d'ailleurs, la France n'est pas le pays le plus mal loti en termes de fraude. Quand même, nos agents font bien le boulot sur le terrain, je tiens à le souligner, même s'ils sont en sous-effectif. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de produits qui passent entre les mailles du filet. Mais, effectivement, et c'est ce qu'on demande avec la campagne qu'on lance avec Foodwatch en même temps que le livre paraît, c'est le droit de savoir. Quand on regarde, par exemple, un exemple flagrant, c'est un chiffre concernant le poivre. 59% du poivre contrôlé en France est frauduleux. 59%, ça fait presque 2 sur 3. Moi, je me dis, quand je vois ce chiffre, mais peut-être qu'en fait, j'en ai chez moi, dans ma cuisine. J'aimerais bien savoir quels sont ces poivres qui sont coupés avec du sable. J'aimerais bien savoir quelles marques sont concernées, où ils ont été vendus.
59%, vous êtes sûr, 59% du poivre vendu en France n'est pas du vrai poivre.
C'est un chiffre des contrôles issus de la répression des fraudes. Beaucoup de chiffres concernant la France qui sont dans mon livre viennent des rapports de la répression des fraudes. D'ailleurs, je vous invite systématiquement à regarder les sources. Le livre est truffé de sources qui sont en note de bas de page. Ce sont des rapports de la répression des fraudes qui, malheureusement, ne communiquent jamais, même quand on leur demande les noms et les marques. À une exception près, pour le vin. La DGCCRF, la répression des fraudes, a une unité qui est très concentrée, très focalisée sur le vin et spiritueux. Quand même, ça a un grand rayonnement à l'échelle internationale. On le sait, ce secteur. Et bien, figurez-vous, quand il y a des fraudes dans le secteur du vin, là, la DGCCRF, elle balance les noms. On a les noms des entreprises, les types de fraudes, les sanctions aussi qui tombent. Et pour tous les autres aliments, on n'a pas accès à cette information. Donc, c'est l'objet de la campagne. On dit, mais attendez, au vu de l'ampleur du phénomène, on a le droit de savoir.
On fait une pause, Ingrid Kregel, et on se retrouve juste après. Nous sommes toujours avec Ingrid Kregel, la directrice de l'information de l'ONG européenne Foodwatch, qui publie « Manger du faux pour de vrai, les scandales de la fraude alimentaire chez Robert Laffont ». Qui est derrière ? À qui profite le crime ? Qui est responsable ?
C'est pas seulement des petits fraudeurs véreux du fin fond d'un pays obscur loin de chez nous. Ça peut se passer localement, ça peut être des petits producteurs français, ça peut être des PME, ça peut être des multinationales qui sont victimes d'un problème tout au cours de leur chaîne d'approvisionnement, parce qu'on le sait, dans les produits transformés en particulier, il y a énormément d'étapes avec des matières premières qui viennent parfois de loin, où bah, il peut y avoir de la corruption, enfin des produits qui devraient être qualitatifs et qui finalement n'en sont pas, etc. Donc ça peut toucher aussi des grandes marques. Et puis ça peut aussi, et c'est ce que mon enquête démontre, être le fait de réseaux de criminalité organisée, à la fois des réseaux mafieux, mais aussi de la criminalité organisée, c'est-à-dire que c'est tellement facile en fait, et la possibilité de se faire coincer est tellement mince, parce que rien ne ressemble plus à une tomate qu'une tomate. Une fois que ça rentre par un point d'Europe, on a 27 pays en Europe, les fraudeurs savent où la probabilité de ne pas trop se faire contrôler se trouve. Donc une fois que la marchandise rentre, après c'est la libre circulation des marchandises. Donc il y a énormément de réseaux transfrontaliers qui sont organisés et qui, certains font de la drogue, la prostitution, du trafic d'êtres humains et diversifient leurs activités aussi avec l'alimentation. Certains réseaux mafieux en profitent aussi pour mettre la main sur la logistique. Des gros marchés de fruits et légumes type Rungis, par exemple, en Italie, on l'a vu. Ils acheminent les fruits et légumes partout en Europe et dans les doubles fonds de camions, vous pensez bien qu'il y a des armements, de la drogue, etc. Et tout ça est documenté. Donc c'est un business extrêmement juteux et la probabilité de se faire coincer est tellement mince que ça en vaut la peine, en fait.
Qui enquête là-dessus ? Ce sont les États membres de l'UE hein, qui sont responsables des contrôles et des sanctions, chacun dans leur pays respectif.
Vous faites bien de le souligner, en fait, c'est très exact. La réglementation européenne, c'est la même pour tous les pays. Elle dit clairement que les États membres sont responsables de s'assurer que les aliments sont conformes à la réglementation. Il y a une responsabilité, évidemment, aussi sur les industriels. Ils doivent aussi commercialiser des denrées conformes. Donc, c'est les États, ici en l'occurrence nos autorités, qui doivent mettre en place place une politique préventive pour s'assurer en fait que la fraude n'a pas lieu. Et très récemment, la Commission européenne a communiqué il y a quelques mois de cela sur sa grande stratégie qui s'appelle de la ferme à la fourchette. Et dedans, il est bien inscrit noir sur blanc que les États membres doivent mettre en place une politique pour lutter contre la fraude alimentaire. C'est vraiment écrit. Et donc c'est pour ça que notre campagne interpelle, parce que quand on regarde les moyens déployés pour mettre le holà, on voit bien qu'on est loin du compte. Et puis quand on voit les volumes concernés, les denrées concernées, quand on voit l'opacité qui entoure le sujet et un véritable tabou, j'insiste vraiment, les autorités refusent de communiquer. Même les députés, quand ils interpellent certains ministres, se font remballer. Donc oui, il y a les États membres et puis à côté de ça, la France collabore avec Europol, Interpol, qui chaque année font une opération sur un laps de temps limité pour faire des saisies justement d'aliments frauduleux et de boissons. Et puis il y a pas mal d'agences internationales, de l'ONU notamment, qui travaillent sur le crime organisé, qui sont sur le coup parce que il y a de la pêche illégale, il y a tous ces criminels qui ne font pas que dans la bouffe, malheureusement, qui sont mêlés aussi à d'autres trafics louches. Donc voilà.
Et ça a augmenté, dites-vous, avec le coronavirus, hein, comme tous les faux. D'ailleurs, on va le voir dans un instant avec Frédéric Castin sur l'art, les faux dans l'art. Il y a une recrudescence aussi depuis le début du coronavirus. En l'occurrence, on s'est nourri davantage alors que le contrôle de répression des fraudes, la DGCCRF, était en télétravail.
Au début de la crise, il y a un an exactement, oui, il y avait énormément d'agents qui étaient en télétravail. Donc physiquement, les contrôles sur place n'ont pas eu lieu. Tout ça pouvait se faire éventuellement documentairement. Mais surtout, la pandémie les a mobilisés sur d'autres sujets. Je rappelle que la répression des fraudes n'est pas que sur l'alimentation. En fait, ils ont tout contrôlé. Donc, ils ont mis la main sur des faux gels, des faux masques. Ils étaient en charge de vérifier si les commerces non essentiels étaient bien fermés. Enfin, voilà, ils avaient beaucoup d'autres choses à contrôler. Donc, malheureusement, c'était pas une priorité. Et par ailleurs, les industriels qui, eux, ont régulièrement des audits programmés de leurs denrées provenant de l'étranger, ont dû déprogrammer la vérification du sourcing finalement de leurs aliments. Donc ils n'ont pas pu se déplacer, ils n'ont pas pu aller voir sur place. Et tout ça, enfin il n'y a pas photo, malheureusement les fraudeurs le savent et ils en profitent. Et on l'a vu, c'est pas moi qui le dis encore une fois, c'est Interpol et Europol. Ils l'ont dit dans plein d'interviews, les fraudeurs ils s'en sont régalés de ces opportunités de moins de contrôle. Évidemment ça faisait leur jeu.
Et alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous les consommateurs, j'entends Irène Kragel
Non, ce qu'on peut faire, c'est difficile de vous répondre, parce que même moi, je ne sais pas reconnaître les fraudes comme ça. Il faut qu'on s'appuie sur nos agents qui sont, comme je vous l'ai dit, débordés. Donc ce qu'on peut faire, c'est réclamer la transparence. On est convaincus chez Foodwatch que cette transparence aura un effet dissuasif. Parce qu'actuellement, les producteurs et les industriels, les opérateurs qui travaillent bien, mais finalement sont logés à la même enseigne que les fraudeurs, puisque les fraudeurs ne sont jamais exposés publiquement. On n'a jamais accès à l'information. Et on le sait parce que j'ai enquêté dans d'autres pays où c'est beaucoup plus transparent, où les citoyens ont accès à ces infos. La transparence a un effet dissuasif, clairement. Les candidats fraudeurs, ils vont y réfléchir à deux fois s'ils sont épinglés.
Mais comment on peut faire pour réclamer la transparence ?
Pour réclamer cette transparence, il faut signer la pétition qui est sur foodwatch.fr. C'est une pétition qui est adressée au ministre de l'économie qui chapeaute la DGCRF, Bruno Le Maire, et le ministre de l'agriculture, Julien de Normandie, pour leur demander justement l'accès à cette information. Il n'y a rien qui les empêche d'être plus transparents. On s'est plongé dans le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, la Cour de justice de l'Union européenne. Franchement, il y a un tapis rouge. C'est un choix politique d'être opaque. Ils peuvent être transparents. Et moi, je pense que les milliers de personnes qui signent la pétition depuis que le livre est sorti veulent savoir. Et donc, on espère que ça va provoquer un électrochoc dans la classe politique. Voilà.
Manger du faux pour de vrai, les scandales de la fraude alimentaire, c'est signé Ingrid Kragel et c'est paru chez Robert Laffont. Merci Ingrid d'être venue.
Merci.
Sur Europe 1. On se retrouve juste après une pause avec... On va parler de faux encore avec Frédéric Castin, mais cette fois, ce sont les faux dans l'art.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain.
Bonjour Frédéric Castin.
Bonjour.
Vous êtes président de la Compagnie nationale des experts, l'une des associations d'experts les plus importantes en France, qui tire la sonnette d'alarme. Il y aurait une recrudescence des faux depuis le début de la crise du coronavirus.
Oui, alors c'est quelque chose qui est déjà très ancien. Enfin, très ancien. Disons que depuis quelques années, le marché de l'art a connu un bouleversement parce qu'il y a eu, après la crise des subprimes, après la multiplication des grandes fortunes, après le fait que les paradis fiscaux étaient moins attractifs que d'habitude, qu'auparavant, on a vu arriver un afflux d'argent, mais considérable, sur le marché de l'art. Pour des raisons, soit optimisation fiscale, soit spéculation, soit même parfois blanchiment. Et donc, nous avons chez nous, les experts, un adage qui est bien connu, qui est le faux va à l'argent. Donc, on a vu effectivement se multiplier les faux. Or, si vous voulez, le garde-fou en présence de faux, c'est quand même... Bon, il y a la police, il y a la justice en aval, mais en amont, c'est l'expert qui identifie et qui peut écarter les faux. Or, il se trouve qu'avec le développement d'Internet et en particulier le confinement, on a assisté à, disons, une accélération, une multiplication de ce qui existait auparavant. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, il y a un développement des ventes sur Internet, ou lesquelles sur Internet, n'importe qui, vous-même, si vous voulez, vous pouvez vous présenter comme un expert.
Oui, les expertises... c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Alors oui. D'abord, c'est vrai, sur Internet, ça se passe sur des photos, donc on ne touche pas l'œuvre.
Voilà,
donc,
voilà.
Évidemment, on peut être abusé assez facilement. Mais il n'y a pas de diplôme d'expert, au fond. N'importe qui peut décider qu'il est expert.
Voilà, vous-même, si vous voulez, sur votre carte de visite, vous pouvez mettre, moi je suis expert en manuscrit, vous pouvez mettre expert en manuscrit. Ouais. Par exemple, voilà. Parce qu'il n'y a pas de statut d'expert, donc n'importe qui peut le faire. Néanmoins, il y a quand même quelques garde-fous. Précisément, vous me présentiez comme président d'une compagnie, eh bien, il y a des compagnies d'experts. Et les compagnies d'experts font que, si vous voulez, on passe de l'expert autoproclamé à un expert membre d'une compagnie. Et expert membre d'une compagnie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a au moins 10 ans d'ancienneté, qu'on n'a que 2 spécialités, parce qu'on ne peut pas être expert généraliste, c'est un oxymore, 2 spécialités, on a un casier judiciaire vierge, on a une assurance, enfin bref. Vous voyez, c'est ça qui fait la différence.
D'ailleurs, je crois savoir que pour être expert à la Compagnie nationale des experts, il ne faut pas être salarié d'une maison de vente.
Alors, si vous voulez, oui, effectivement, vous avez quelques grandes maisons de vente, en particulier les maisons de vente anglo-saxonnes, qui, en lieu et place d'experts indépendants, utilisent des spécialistes salariés. Alors, ces spécialistes salariés peuvent avoir tout à fait les connaissances, l'expérience, ça c'est indéniable. Il reste que le troisième volet de l'expert, c'est expérience, connaissance et indépendance. Or là, il y a un contrat de travail. Et à partir du moment où il y a un contrat de travail, il y a d'une certaine façon un rapport de subordination. C'est-à-dire que l'expert, quelles que soient ses compétences et ses connaissances, à un moment donné, pas toujours, même parfois jamais, mais à un moment donné, peut être amené à obéir aux ordres de l'employeur puisqu'il est sous contrat.
Et à dire que c'est authentique quand il aurait un doute. Mais avec tout l'argent qui est arrivé dans l'art, Frédéric Castaing, tout expert, même indépendant, peut subir des pressions.
Ah ben oui, bien sûr.
Il y a eu des affaires où on le sait, où on l'a vu.
Ah ben c'est non seulement il y a eu des affaires où on l'a vu, mais par exemple, je peux en parler puisque lui-même a avoué que c'est une affaire qui est encore qui va passer en justice, mais enfin donc il lui-même a avoué. Prenons l'affaire du mobilier, des faux mobiliers qui a été vendu au Louvre et à Versailles.
Mobilier du 18e siècle.
Mobilier du 18e siècle. Le faussaire qui a avoué donc était le plus grand expert, le plus grand spécialiste du mobilier 18e. Mais je veux dire, il ne faut pas en tirer par là les conséquences que le fait que, bon, les tentations, bon, après tout, les experts, bon, à chaque moment, bon, sont des cas vraiment exceptionnels, parce que, encore une fois, c'est ceux qu'on monte en épingle. Mais réfléchissez que tous les jours, des centaines, même des milliers d'objets passent de main en main. Ça va du manuscrit de Rimbaud à la statue d'Ogon, en passant par un tableau de Delacroix ou un buste de Rodin. Et il y a des experts qui, tous les jours, identifient ces objets, écartent les faux, donc ils font le boulot. Donc ceux-là, on n'en parle pas. Par contre, on parle de ceux un
mais
peu plus
j'ai
flamboyants.
J'ai l'impression que le système français est unique au monde, en France et en Belgique, on va dire. Le système basé justement sur ces experts.
Ouais.
Quelle est la différence ? Comment ça se passe dans le monde anglo-saxon ?
Eh bien, si vous voulez, la différence, c'est que le fait qu'il existe des compagnies d'experts qui, comme je vous l'ai dit, présentent quand même des garanties par rapport aux acheteurs, par rapport à tout le monde. Bon, c'est un phénomène unique au monde. Nulle part au monde, vous n'avez de compagnie d'experts, c'est-à-dire qui sélectionnent les experts indépendants et donc qui constituent une certaine sécurité. Ben ailleurs, ça se passe que, comme on l'a dit, n'importe qui peut se proclamer expert. N'importe qui peut se proclamer expert, ça c'est ce qui règne, disons, à l'échelle mondiale,
mais
sur le marché.
Cela dit, considérant que même les experts n'ont pas toujours raison, la preuve, il leur arrive d'être en désaccord. Par exemple, des experts aussi importants et confirmés,
bien sûr, réputés,
peuvent ne pas être d'accord. Il leur arrive aussi de se tromper.
Oui, bien sûr.
Certains marchands, ça paraît logique, voudraient se passer d'experts.
Alors, c'est pas tant les marchands, c'est les commissaires-priseurs.
Oui.
Les commissaires-priseurs, c'est vrai que moi j'ai fait un rapport récemment là-dessus sur cette question des ventes en ligne et de l'expertise, et on se rend compte, on a réalisé que dans beaucoup de ventes, de plus en plus, les commissaires-priseurs avaient tendance à se passer de l'expert pour des motifs qui sont parfaitement subalternes et secondaires par rapport à l'importance de l'authentification, c'est-à-dire un expert, ça coûte cher, ça prend du temps, ça ralentit les affaires. Ce qui est une vision à courte vue.
On peut aussi essayer de faire pression sur les experts, on l'a dit, en les soudoyant. Il y a ce roman Port-Franc, écrit par l'ancien galeriste Manuel Benguigui, qui montre des experts soudoyés pour authentifier de faux tableaux.
Oui, bah évidemment, mais comme dans toute profession, il y a des brebis galeuses. Est-ce que pour autant, parce qu'il y a des médecins charlatans, vous supprimez l'ensemble des médecins et du corps de la médecine? Donc ça, oui, il y a des experts faussaires, il y a des experts indélicats, comme il y a des médecins indélicats, comme il y a des journalistes indélicats qui sont achetés, voilà.
Mais alors, si on fait partie des personnes qui ont acheté des faux, depuis, on va prendre depuis la crise du coronavirus, puisque effectivement c'est une période qui s'y prête. Il y a eu des faux, j'imagine, dans tous les domaines, aussi bien les manuscrits, les peintures.
Moins dans les manuscrits, parce que c'est tellement difficile de faire un faux.
Parce que vous-même êtes un expert en manuscrits.
Expert en manuscrits.
C'est vrai que c'est peut-être plus
d'ailleurs,
difficile.
D'ailleurs, pour vous dire, le sens et l'importance de l'expert, parce qu'on réalise mal, on dit l'expert, mais sans l'expert, tout objet d'art reste à l'état de potentialité. C'est-à-dire que sans l'expert qui dit « ça, c'est telle chose », je veux dire, l'objet, il reste « voilà, ça, c'est une feuille de papier, c'est rien du tout ». Signé Henri, il faut qu'il y ait un expert pour dire « ça, c'est une lettre d'Henri IV ».
Oui, en effet, oui.
Donc, vous voyez, c'est simple.
Donc, non seulement vous authentifiez, vous dites que c'est une œuvre d'art, mais vous évaluez sa valeur aussi.
Ah oui, bien sûr, l'estimation.
Bien entendu. Alors, ce que je voulais dire, c'est que si j'ai malencontreusement acheté un faux, dans quelque domaine que ce soit, je me retourne contre qui? Je me retourne contre le vendeur, contre la maison d'enchères, contre l'expert aussi, peut-être.
Tout dépend où vous l'avez acheté. Si vous l'avez acheté en vente publique, en principe, dans une vente publique classique, le commissaire-priseur et l'expert sont solidairement responsables. Donc vous vous adressez au commissaire-priseur et à l'expert, et vous réglez ça avec eux. Si vous avez acheté sur Internet à un expert lambda ou qui n'existe pas ou qui existe, enfin, ou qui est un prête-nom, ça, alors là, c'est votre problème. Mais je veux dire, la sécurité, c'est une des sécurités des ventes publiques aujourd'hui. La clé de voûte d'un marché sécurisé sur les ventes publiques, c'est le tandem opérateur, c'est-à-dire commissaire-priseur, expert, dans un rapport d'indépendance réciproque. C'est-à-dire que le commissaire-priseur, il s'occupe de ce qu'il connaît. C'est-à-dire, il organise la vente, il a la maîtrise de la vente, il choisit même l'expert. En revanche, l'expert, lui, est totalement indépendant du point de vue de l'authenticité. C'est-à-dire que le commissaire-priseur ne peut pas lui dire bah « non, ça, tu mets que c'est comme ci ou comme ça ». Et ça, c'est quelque chose de très fort.
Il faut se méfier de quoi? Généralement, quand on achète un Picasso, même sur Internet, on a plutôt des chances que ce soit un Picasso. C'est pour la peinture intermédiaire, on va dire, que c'est plus risqué?
Oui, c'est pour les choses intermédiaires, oui. Les choses intermédiaires, vous savez, il y a la grande délinquance, mais avec Internet, la petite et moyenne délinquance a rejoint la totalité, l'ensemble. Donc, je veux dire, la seule garantie qu'on peut avoir, c'est vraiment un expert. Un expert indépendant. Alors, bien sûr, il peut se tromper, mais au moins, il assume, je veux dire, donc il est responsable.
Merci Frédéric Castin. Je rappelle que vous-même, vous êtes un expert et que vous êtes le président de la Compagnie nationale des experts. On se retrouve dans un instant avec Aurélien Bélanger qui vient de publier un nouveau roman, Télé-réalité. Ça parle de télé.
Merci de votre accueil.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain.
Aurélien Bélanger, bonjour. Vous êtes l'auteur de La théorie de l'information, de l'aménagement du territoire, du continent de la douceur, et vous venez de faire paraître un nouveau roman, toujours chez Gallimard. Il s'intitule Télé-réalité. Le héros est inspiré de Stéphane Courby, l'homme qui a importé la télé-réalité en France, le producteur de Love Story, de Star Academy, de Secret Story, devenu depuis le numéro un mondial de la production télé. Mais alors, il faut que je vous l'avoue, je suis un petit peu embarrassé. Quand je vous ai invité, je n'avais lu que quelques pages de votre livre. Je me suis aperçu depuis que vous étiez inspiré de moi pour Le meilleur ami du héros, pas de ma vie, je ne connais pas Stéphane Courby, mais de mon parcours télévisuel, des émissions que j'ai animées, ce qui change un peu notre entretien. C'est un peu comme si vous étiez interrogé par un de vos personnages.
C'est tout à fait ça, oui. Non, mais j'avais besoin, bonjour d'abord, j'avais besoin pour raconter la télévision, d'imaginer un pur dandy télévisuel et je vous ai tombé sur vous.
Oui, j'allais dire pourquoi moi, beaucoup d'autres animateurs étaient mieux placés pour tenir le rôle du plus vieil ami, de l'inventeur de Touche pas, des enfants de la télé, pardon, et de combien ça coûte.
En fait, tout le défi, c'était justement de lui faire rencontrer, parce que lui, c'est un producteur, il est du côté vraiment du capital, et de lui faire rencontrer quelqu'un qui avait plutôt la fibre artistique et qui essayait de le convaincre depuis le début que la télévision était un art. Et à un moment, il lui dit, vas-y, viens, on va présente les enfants de la télé, deviens un millionnaire. Et lui, il refuse parce qu'il dit non, il a une vision justement un peu dandy, il préfère être chroniqueur et chroniqueur de la télévision en tant qu'art. Mais ça va infuser dans l'esprit de mon personnage parce qu'il va toujours, alors qu'il a d'incroyables succès capitalistiques, il a toujours en tête l'idée que la télévision doit être un art, comme lui a dit son fameux ami.
Alors, dans la théorie de l'information, vous étiez inspiré de la trajectoire de Xavier Niel. Dans l'aménagement du territoire, c'était Francis Bouygues. Dans télé-réalité, c'est Stéphane Courbis. Mais ce n'est pas leur vie ni leur personnalité qui vous intéresse. C'est quoi ? C'est leur réussite ? C'est ce qu'ils ont compris de leur époque avant tout le monde ?
Oui, en fait, c'est paradoxalement... Pour faire un roman, c'est très bien de prendre un personnage naïf, c'est un roman d'éducation, il découvre le monde, c'est ce qu'a fait Balzac plein de fois. Moi, j'ajoute cette petite bizarrerie que mes personnages réussissent et deviennent milliardaires. Ils restent des sortes de témoins qui deviennent acteurs. Et je trouve que c'est formidable révélateur, parce qu'on voit que la figure du milliardaire, elle a acquis au fil des années un statut. Aujourd'hui, on demande, par exemple, à Elon Musk, non pas comment il est devenu riche, mais comment est-ce qu'on va sauver l'humanité. Enfin, on leur demande des choses quasiment spirituelles. On les prend vraiment comme des gourous, des messies. Et du coup, voilà, ça m'intéresse de travailler sur ce genre de matière.
La télé-réalité, c'est une révolution télévisuelle dont les répercussions vont se manifester dans tous les recoins de la société, dites-vous, jusqu'à l'élection de Nicolas Sarkozy.
Bah Nicolas Sarkozy, on l'a un peu oublié maintenant, pas Nicolas Sarkozy, mais sa geste initial, c'est il fait la nuit des héros, donc vieille émission, un reality show qui racontait les gens qui avaient fait des choses héroïques. Lui, il le fait en allant dans une maternelle de Neuilly où des enfants sont retenus en otage. Et à partir de là, alors qu'on le prenait quand même vraiment pour un loser avec une tête un peu triste, à partir de là, il devient un personnage télévisuel, il devient l'équivalent français de Berlusconi, quelqu'un dont le succès va s'accompagner d'un succès à la télé. On a vu à quel point il était interventionniste dans les médias. Toute la trajectoire qui conduit à son élection en 2007, c'est une télé-réalité qui met en scène la gloire du ministre de l'Intérieur et de ses super policiers qui arrêtent les gens la nuit comme ça. Et il y a des milliards de télé-réalités marrantes sur la police de nuit à Saint-Tropez, etc. Avec derrière l'ombre de Nicolas Sarkozy comme ça qui fabrique son propre personnage.
Alors avant la télé-réalité, il y avait eu les reality shows dans les années 80. Psycho, Perdu de vue, Témoin numéro 1. Mais comme le dit votre héros, il ne mettait pas en scène le triomphe des individus, plutôt leur écrasement permanent sous le poids des faits divers, des hérédités désastreuses ou des accidents innombrables. En fait, la télé-réalité a enlevé l'aspect tragique. Elle regarde la vie des gens comme une comédie et elle en fait un jeu.
Bah, c'est tout à fait quelque chose de cet ordre-là, parce qu'effectivement, pour faire Perdu de vue, il fallait avoir perdu l'un de ses proches. Pour aller chez Delarue, il fallait avoir un drame, un handicap, une cécité, un trouble psychologique quelconque, alors que pour la télé-réalité, il faut juste être soi-même, être vaguement représentatif de la société française. Après, ça ne lui enlève pas sa cruauté. Sa cruauté, c'est qu'ils vont être scrutés et ça ressemblera quand même à des jeux du cirque.
Et votre héros est à la recherche d'une forme télévisuelle nouvelle pour le nouveau siècle. Et c'est aux Pays-Bas qu'elle va naître, un love story, c'est un concept hollandais au départ. Les Pays-Bas, historiquement, dit l'un de vos personnages, c'est le laboratoire de la modernité du monde.
Bah, c'est une vieille, vieille chose. C'est là où on allait éditer les livres interdits en France.
C'est là où on a inventé le capitalisme aussi.
C'est là où on a inventé le capitalisme avec la Compagnie des Indes ou les spéculations sur le bulbe de la tulipe. C'est là où on a légalisé très, très en amont le mariage gay, où on a légalisé l'euthanasie. Il y a un côté, je ne sais pas pourquoi, les Pays-Bas sont l'avant-garde de la modernité. Et ça tombe bien, la télévision, en tout cas dans ces grandes années, c'était ce qu'il y avait de plus moderne au monde. Et donc, il fallait que les deux se rendent compte et il fallait que la modernité télévisuelle absolue vienne des Pays-Bas.
En France, ce n'était pas gagné. Hein. Vous dites que nous n'avons pas la même tradition télévisuelle que nos voisins. Le PAF, comme on l'appelle, est très conservateur et il est rétif aux innovations trop radicales, je vous cite là.
Bah, quand on regardait dans les années 90-2000 les télévisions étrangères, surtout italiennes, anglaises ou allemandes, c'était affreusement moche, on appelait ça de la télé-poubelle, c'était dingue. La télévision française avait une sorte de surmoi, elle était regardée par des intellectuels et tous les 3-4 ans, Bourdieu ou quelques autres écrivaient un grand livre pour dire la télévision c'est ça, mais ça pourrait être ça, c'est TF1, ça pourrait être Arte, etc. Donc on a un rapport très très... Notre télévision, en fait, elle est regardée par tout le monde, y compris par nos intellectuels. Et ce qui fait que Big Brother, donc le Love Story original, il met un peu plus de temps, un an ou deux, à arriver à la télé française. Et le livre raconte ça avec un billard à trois bandes, justement mené par mon personnage. On va d'abord aller sur M6 parce que ça va, c'est un peu sale. Et puis après, on va revenir
challenger,
sur TF1.
En fait, c'est TF1, c'est le numéro un. Il ne peut pas se permettre.
Il ne peut pas se permettre. Et du coup, on a oublié, mais l'affaire est savoureuse. Patrick Lelay, le patron de TF1 à l'époque, écrit une lettre pour dire que l'arrivée de Love Story sur M6, c'est la fin de la civilisation, c'est les barbares aux portes de Rome. Et que TF1, jamais fera ça, ils le feront exactement un an plus tard.
Mais vous dites aussi que c'est votre héros qui a coécrit la lettre avec Patrick.
Voilà, là, c'est la liberté romanesque. Je me dis, c'est marrant parce que du coup, son acolyte dit non, mais c'est horrible ce qu'on fait. Je dis non, mais t'inquiète, tout ça est calculé. Et de fait, mon héros va se retrouver à la tête de toutes les grandes émissions qu'on connaît. La première de toutes étant ce télécrochet dont j'oublie présentement le nom, Star Academy. Et voilà, toutes ces choses qu'a déferlé sur nous depuis 20 ans. Parce qu'on a oublié, parce que c'est là depuis 20 ans maintenant, ça fait 20 ans qu'on regarde de la télé-réalité. C'est devenu le genre télévisuel hégémonique.
Mais vous allez nous dire ce que ça a changé d'ailleurs en nous, mais d'abord on fait une pause. Nous sommes ce matin avec Aurélien Bélanger, qui vient de publier Télé-réalité chez Gallimard. Alors pourquoi Love Story va-t-il devenir un tel phénomène de société, fascinant à la fois le public et les intellectuels, Télé 7 jours et les cahiers du cinéma? Comment ça s'est produit? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans de magique à ce point?
Bah à l'époque, il y avait une série, une sitcom américaine qui s'appelait Seinfeld, et on disait que c'était une sitcom sur rien, c'était que des situations, et c'était génial parce que ça mettait en scène le néant à sa façon. Love Story a été la première mise en scène du néant. Aujourd'hui, les téléréalités, les gens montent sur des bâtons et se battent dans Koh-Lanta, c'est très spectaculaire, ou font des tartes à étage, machin. À l'époque, Love Story, on enfermait des jeunes, un peu prélevés comme ça dans la population moyenne d'une boîte de nuit, sauf qu'on enlevait la musique, on les mettait comme ça, et bam, qu'est-ce qui va devenir? Et il se passait rien, et c'était consternant. Et du coup, il y a eu un côté un peu cathartique, on aimait bien contempler leurs propres bêtises, ils étaient caricaturaux, etc. Et c'est ça qui va rester de la télé-réalité, c'est des personnages un peu de type comédia dell'arte, c'est-à-dire, ils ont tous un rôle, il y a la bimbo, il y a le playboy, etc. Et on va leur demander de jouer ce rôle à la perfection. Et plus ils sont caricaturaux, plus on va les aimer. Et ça va donner des personnages géniaux de type Nabila, ou Nabila instantanément. On adore l'excès du personnage et ça rappelle, c'est l'une de mes hypothèses, c'est que en fait ça rappelle quelque chose qu'on connaît bien en France, qui est le théâtre de Molière. Ça va jouer le rôle d'un grand théâtre populaire, la télé-réalité.
Love Story, vous dites que c'est la représentation de la société. C'est une image à peu près parfaite de la France de l'an 2000. Mais en même temps, comme vous l'avez dit, en fait, c'est comme si on avait recruté des gens qui vont dans les boîtes de nuit. C'est pas tout à fait la France, les gens qui vont dans les boîtes de nuit.
Non, mais alors la boîte de nuit, alors j'en parle maintenant.
T'as un échantillon spécial.
Maintenant, on en parle avec beaucoup de nostalgie, on aimerait qu'elle réouvre, blablabla. Bla, mais les boîtes de nuit, moi, c'était donc l'expérience ultime de la séduction, machin, quand j'étais jeune. Et c'était une sociologie extrêmement dure. Pour moi, c'était vraiment, fallait aller se battre.
Pour pouvoir rentrer,
fallait s'habiller correctement, fallait réussir à séduire quelqu'un alors que la musique était trop forte et qu'il y avait des contraintes et que d'un coup, moi rentre en boîte de nuit, j'avais l'impression de lire Bourdieu en accéléré, quoi, de découvrir d'un coup tous les habitus du monde qui tombaient sur moi comme une douche froide. Et donc la boîte de nuit fait peur aux gens. Et donc au bout d'un moment, ils ont arrêté la boîte de nuit. Donc à part quelques gens qu'on adorait, genre les Guetta, qui allaient encore en boîte de nuit, dont c'était le métier, les gens ont arrêté d'aller en boîte de nuit, se sont installés en couple, ont acheté des pavillons, des voitures, des chiens, des enfants, tout ça. Et donc on avait une sorte de nostalgie de l'époque où on faisait vraiment la bataille pour la vie, où on était dans la jungle et on se battait. Et du coup, l'une des explications du succès de Love Story, c'est ça, c'est que regardez, vous allez pouvoir regarder ce qui vous a fait si peur et voilà, vous avez arrêté de vous battre, mais eux, ils vont se battre encore sous vos yeux.
Mais alors, il y a sous-jacent dans votre livre l'idée que la télévision, c'est le grand art de notre époque et que votre héros, au fond, cherche une forme artistique ultime, celle du nouveau siècle, celle qui naît avec Love Story. Et que font la scène de la piscine entre Loana et Jean-Édouard, ça c'est une spécialité française, hein, on n'a pas eu ça dans les autres versions du même concept à l'étranger, ce serait un peu l'Olympia de Manet. Ce serait le scandale qu'avait créé soit l'Olympia, soit le déjeuner sur l'herbe de Manet à la fin du 19e. Sauf que là, ça n'a même pas fait scandale. En fait, tout le monde a trouvé ça très pittoresque.
Sauf qu'on ne l'a pas vu. Ça a existé comme un événement de débat, parce qu'en fait, la scène, elle est passée une heure spéciale, et puis le CSA veillait. Donc, en fait, c'est devenu un objet de discours. Et donc, le scandale a effacé les images. Et en soi, c'était fou. Mais ce que je trouve fou avec la télévision, c'est qu'elle existe depuis une cinquantaine d'années, qu'elle est obsédante, les gens la regardent, et à aucun moment, on se dit que, quand même, les images, c'est important. On est en Occident, on a une culture des images depuis la Renaissance qui est extrêmement énorme. Et toutes les révolutions passent par des révolutions picturales, la perspective, révolution du point de vue, révolution de la subjectivité, etc. Tout se joue dans les images. Et la télévision, on a oublié de l'analyser en historien de l'art. On l'a toujours traité par mépris. Genre, ça pourrait être mieux, il pourrait y avoir que des films de Bergman tout le temps. Et à aucun moment, c'est dit, mais que les gens regardent, même si c'est des jeux télé, des émissions de variété, Love Story, les gens consomment des images, regardons ces images une bonne fois pour toutes.
Alors, vous le disiez, depuis, ça s'est multiplié, hein, Star Academy, Secret Story, Koh-Lanta, Les Marseillais, Top Chef, Recherche Appartement, Super Nanny, etc., etc., etc. Ça a changé quoi? En quoi ça nous a changé, toutes ces émissions?
Alors un détail, c'est que on n'a plus le même rapport à nous-mêmes. Donc je pense que c'est un petit détail. Ça a changé notre rapport à la subjectivité. Avant, quand on était jeune et qu'on était filmé, quand on se revoyait, c'était pas vraiment nous-mêmes. On avait un petit rapport d'effroi. Aujourd'hui, avec ce face caméra permanent, parce que la télé-réalité, c'est des gens qui vivent des situations, mais après qui viennent en témoigner face caméra. Et dans ce face caméra, se joue à mon avis un rapport à notre subjectivité. On a moins peur des images et la télé-réalité est une façon qu'on a eue de s'habituer à vivre dans un monde où il y aurait des images à saturation.
Vous dites que le bling-bling aussi a un rapport avec la télé-réalité.
Oui, bah, incontestablement, il y a eu les excès, la télé-réalité. Il y a deux grands genres. Il y a le genre du pittoresque qui va représenter des garagistes, des déménageurs, des cuisiniers, un côté un peu des bons travailleurs qui font du bon travail. Et de l'autre côté, ça va être les ch'tis ou les Marseillais, c'est-à-dire des gens qui font n'importe quoi et qui sont presque payés pour ça. On va leur demander vraiment de se comporter de façon extrêmement outrancière. Mais une fois de plus, c'est cathartique. On a besoin d'avoir ces idiots qui vont faire un petit peu les andouilles.
Vous disiez que Nicolas Sarkozy était le premier président élu après l'avènement de la télé-réalité, mais depuis, il y a eu Donald Trump, le premier président, qui a lui-même été pendant 10 ans animateur d'un jeu de télé-réalité.
Bah, c'est là où c'est complètement fascinant, parce qu'en fait, quand on regarde, même quand le New York Times a décortiqué la fortune de Donald Trump, on se rend compte que le vrai succès de sa vie, c'est pas du tout l'immobilier, c'est son émission qui se mettait en scène comme milliardaire. Exactement. Donc, qu'il ait réussi à en sortir, parce qu'on disait à un moment que Stevie ou Loana ne ferait pas de carrière, bah, une personne a fait une carrière, c'est Donald Trump. Donc, en fait, ça a imprimé absolument tous nos imaginaires, et je pense qu'on ne comprend pas les 20 premières années du 21e siècle si on n'en passe pas par une analyse de la télé-réalité.
Mais il y avait quelque chose de très particulier avec Love Story, je parle du premier Love Story, c'est que ces gens qui rentraient dans le loft ne savaient pas du tout qu'ils allaient devenir des vedettes, ils ne savaient même pas si on allait parler d'eux. Et comme ils restaient dans le loft le plus longtemps possible, ils ne l'ont su qu'au tout dernier moment, c'est quand on en sortait, une fois qu'on avait perdu, que l'on savait qu'à l'extérieur, les gens étaient fascinés par ce qui se passait dans le loft. Ça ne s'est jamais reproduit par la suite. Dès le loft numéro 2, ceux qui sont allés ont cru qu'ils allaient devenir des stars et ils ont perdu leur spontanéité, leur innocence et ils ne sont jamais devenus des stars.
Non, effectivement, et la seule façon pour eux de devenir des stars était de reparticiper à des émissions un petit peu rétrospectives, revivons le loft, etc.
Oui, oui, c'est une autre invention encore de votre héros d'ailleurs. Hein.
La télé-réalité qui se nourrit elle-même de télé-réalité dans une sorte de monde parallèle où les vedettes de télé-réalité servent à devenir des vedettes de télé-réalité.
Télé-réalité, c'est le nouveau roman d'Aurélien Bélanger. Ça vient de paraître chez Gallimard. Merci Aurélien d'être venu en direct ce matin sur Europe 1.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. On se retrouve samedi prochain après le flash de 10h. Ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, présenté par Mickaël Darmon. Votre invité, Mickaël, c'est Xavier Bertrand.
Xavier Bertrand, président de Hauts-de-France, candidat à l'Élysée. Il s'exprime pour la première fois depuis sa déclaration de candidature au point. Démonstration de force ou coup de poker ?
Bonne émission !